C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au 21e siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, au temps du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au 21e siècle, quoi? C'est pas pour dire, mais... toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Salut, c'est Charles Cécile. Nous sommes au Festival du Légendaire, organisé en région centre par Pascal Folio, et entre deux spectacles et diverses tables rondes, Anne-Gaël Goduchot a carrément privatisé la cantine pour faire une interview. Alors si je vous dis une robe couleur du temps, vous pensez à Podane, oui. Mais si je vous dis Marie-Madeleine un amour infini, l'éternel masculin, vous avez plus qu'une piste pour deviner qui est notre invité du jour. Les contes traditionnels nous invitent à aller dans les coulisses du monde, à regarder l'envers du décor, la doublure des choses, et à écouter à la porte du mystère, dit notre invité. Je cite encore, « Écoute mon âme, c'est ton histoire qui t'est contée. Il était une fois, écoute bien mon âme, et souviens-toi, il y a très longtemps. Tiens bien le fil du conte, petite âme, et retrouve ton chemin. » C'est pas pour dire, prenons la route ensemble avec notre invité du jour, qui est, vous l'avez deviné, Jacqueline Kellen.
On commence ?
C'est parti.
Jacqueline Kellen, bonjour.
Bonjour.
Donc on est là dans un festival qui s'appelle le Festival du Légendaire, où on a entendu beaucoup de conteurs, mais aujourd'hui vous étiez invitée pour une table ronde dont le thème était...
Femme en résistance, autant que j'ai compris, parce que je l'ai appris à la dernière minute, mais nous avons parlé, je pense, de liberté, d'amour, d'aventure, et certainement pas de lutte violente et d'hostilité, ça c'est sûr.
Alors quand je suis passée vous voir tout à l'heure en vous demandant si vous étiez d'accord qu'on prenne un moment pour vous interviewer, vous m'avez dit « mais je ne suis pas conteuse ».
Exactement.
Ouais. N'empêche, vous vous intéressez aux histoires depuis un moment, non ?
Oui, et surtout au mythe. Alors ça doit venir certainement des études que j'ai faites. J'ai suivi des études de lettres classiques, donc latin, grec, français ancien français. Donc j'ai rencontré non seulement les grandes racines de la tradition occidentale, la philosophie, Platon, les présocratiques, Platon, Socrate et tous les autres, Sénèque, Cicéron pour l'aspect latin, et puis la philosophie et aussi les mythes, justement, qu'il s'agisse de Tristan et Iseut pour le Moyen-Âge français, qu'il s'agisse de l'Odyssée pour l'aspect, pour le mythe grec. Donc il y a toute cette richesse, en effet. Les contes, on sait que les contes existent dans toutes les traditions, c'est la tradition orale ancestrale, originelle, c'est ça qui est magnifique. Et au départ, la sagesse, en effet, est sous forme ce... manifeste ou se dit ou se transmet sous forme de légendes, d'histoires et de mythes. Et ça, en effet, c'est passionnant parce que c'est intemporel.
Quand vous étiez petite, on vous a raconté des histoires ou bien vous en avez
non, vu ? Non, on ne m'a pas raconté des histoires, mais je remercie mes parents qui ne sont plus de ce monde. Mais je remercierai toujours mes parents parce qu'ils m'ont offert des livres.
D'accord.
Et très vite, moi, je pense qu'on le sait que la lecture est une école de liberté. Et moi, j'ai appris à lire très jeune. J'avais 5 ans ou à peine, et je lisais. Et moi, à Noël, je me souviens, la seule chose que je demandais, enfin, j'avais certaines, bien sûr, un ours et tout ça, mais moi, c'était avoir des livres. Et j'ai lu. Et très petite, en effet, je me souviens, ce qui m'a le plus marqué, c'était justement un conte de crime. Ça m'avait beaucoup marqué. Bien sûr, c'était non pas édulcoré, mais il n'y avait pas tous les contes. Et ça m'avait énormément marqué, c'était Le Fidèle Jean. Le fidèle Jean, qui est une histoire que vous, ça, bien sûr, vous connaissez comme conteuse, qui est une histoire d'amour, de sacrifice terrible.
Qui est difficile à... Je ne connais personne qui la raconte.
Non,
c'est difficile à comprendre.
Mais bien sûr, ouais. Puisque même le héros est incompris, il se sacrifie en effet. L'histoire en est que les enfants qui sont transformés en pierre et après. Et ça m'avait marqué parce que je sentais que ce n'était pas pour faire peur. Vous savez, maintenant, les contes, alors on édulcore, non, le loup, il n'a pas mangé le petit chaperon rouge, etc. Mais c'est la vie aussi. Dans la vie, dans l'existence, en effet, on rencontre des méchants, des traîtres, etc.
Si vous êtes tombée petite dans les frères Grimm, j'imagine que...
voilà. Donc, mais je n'ai pas lu que ça, Babar, etc. Mais j'ai lu, bien sûr. Et comme, alors je pense aussi, comme je n'ai pas du tout la tête historique, personne ne me croit, mais je ne suis vraiment ignorante en histoire, c'est-à-dire j'arrive à me repérer aux faits historiques, alors je ne parle pas de la guerre de 14 ou de 1515, hein, bien sûr, mais c'est par le biais justement de la littérature, de l'art, de la peinture, de la musique que je me dis on est dans tel siècle, etc. Mais moi je n'ai pas du tout, et ça ne m'intéresse pas. Le chronologique ne m'intéresse pas, l'histoire événementielle ne m'intéresse pas, je ne fais pas la dédaigneuse parce que je fais partie de l'aventure humaine. Mais justement, ce qui se hausse par rapport à cette existence terrestre à laquelle nous sommes liés, peut-être attachés, ligotés, c'est justement ce qui est autre, ce qui est plus léger, plus beau, plus libre, plus grand. Voilà. Et les mythes, les contes, nous montrent qu'on est plus grand, plus beau, plus libre, plus noble que ce qu'est notre créature charnelle.
De fées, et l'on pense aussitôt à la marraine de Cendrillon et à celle de Peau d'Âne, et aux sept bonnes fées, qui, au début de La Belle au bois dormant, se penche sur le berceau du nouveau-né. De fait, dans la plupart des récits, la présence des fées et de leurs baguettes est en réalité assez restreinte. Surgit alors l'idée que c'est le conte lui-même qui est fée et qui opère à la façon d'une baguette magique. Il ouvre le regard, élargit le champ de la conscience. C'est pas pour dire, extrait de « Une robe couleur du temps » de Jacqueline Kellen.
Pour les gens qui n'ont pas vraiment lu de conte ou qui s'y sont pas intéressés, souvent, quand on parle de conte, on imagine quelque chose qui est d'abord fait pour endormir les enfants et puis pour apporter une morale. Il y a plein de gens pour qui, aujourd'hui en tout cas, qui disent bah, un conte, c'est un truc d'abord vieillot, sexiste, normatif. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, et puis la princesse dans sa tour, et puis l'autre, et ça. Et donc il y a une assez grande méconnaissance de
totale,
ça.
Totale, une ignorance totale. Alors, soit pour des revendications, hélas, ridiculement féministes, en disant maintenant il ne faut plus parler de princesse.
Ah oui, si on doit demander l'autorisation à la belle au bois dormant pour l'embrasser.
C'est ça, donc c'est absolument ridicule parce qu'ils ne perçoivent pas justement la dimension de sagesse et la dimension initiatique qu'il y a dans ces contes. Moi, c'est ça qui m'intéressait, enfin, même, bien sûr, quand je n'étais pas enfant. Comme vous le dites, c'est ridicule de dire que ces contes sont pour les enfants, tant mieux si on peut quand même les raconter. C'est absolument, ce sont des histoires d'éveil, et c'est pour les adolescents ou les adultes, pour leur donner des chemins, pour leur proposer des chemins vers la sagesse, pour devenir grand au sens intérieur du terme, c'est évident. Et continuer à les mettre dans la littérature pour enfants, c'est aberrant. Ça veut dire que nous, ni vous ni moi et d'autres, mais nous n'avons pas compris l'enjeu. Mais c'est vrai que ça fait concurrence d'une certaine façon aux religions, parce que le conte s'adresse à chacun, c'est un éveil d'intelligence et de cœur et de sensibilité s'adressant à chacun, et chacun doit faire son chemin. Les contes sont des guides, mais chacun fait son chemin.
Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un moment où on avait davantage les clés pour les comprendre qu'aujourd'hui, ou bien on aurait perdu la porte d'entrée de cette forme d'intelligence?
Je pense que ça va d'une certaine façon avec le reste de l'évolution ou de l'involution, à savoir à partir du XVIIe siècle, et surtout siècle des Lumières, hein, même si les frères Grimm appartiennent à ce siècle des Lumières, c'était avant tout des grands linguistes, mais tout ce qui n'est pas d'ordre conceptuel, cérébral, rationnel ou rationaliste, est extrêmement suspect, dont on met de côté, on ne sait pas, on n'a pas de maîtrise là-dessus. Et puis aussi il y a aussi l'histoire de les conteurs ou la conteuse, les conteuses, l'oralité, ça échappe, c'est pas, on n'a pas main mise là-dessus. Mais les frères Grimm eux-mêmes, quand ils ont collationné, parce qu'ils sentaient que c'était une richesse, et encore une fois, c'était des linguistes qui ont écrit le dictionnaire très important, des grammaires. Et les frères Grimm, ils savaient qu'en collationnant ou veiller auprès des personnes, des campagnes, etc., ces récits, ils savaient très bien que c'était des récits de grande sagesse, simplement qu'ils ne pouvaient pas dire chrétienne ou autre. Les contes de fées, il n'est jamais question des saints, des anges, etc. Il y a une bonne fée, mais il n'est pas question même ou juste peut-être une foi de Dieu. Mais le ciel, la dimension invisible existe. Ce qui me paraît important, c'est ça, c'est le jour, et là nous y sommes malheureusement, où il y a scission entre le domaine visible et le domaine invisible. Dans tous les grands mythes, les combats se passent sur Terre, enfin pour parler de l'Odyssée, les combats se passent à la fois sur Terre, les Troyens et les Achéens par exemple pour l'Odyssée, mais également entre les dieux, dans le ciel il y a aussi des combats, donc Athéna contre Poséidon, etc. Et là, le fait qu'on ait rompu nous sommes rivés uniquement à l'aspect terrestre, que nous avons perdu nos antennes, ou qu'on a accepté qu'on nous coupe ces antennes qui nous relient au ciel, à la patrie céleste, là, c'est terrifiant. Donc, ce qui part en même temps, c'est toute cette sensibilité au sacré, au sensible, à la beauté des choses.
Et au symbolique aussi.
Symbole, puisque le symbole, c'est, comme le nom l'indique, ce qui relie les choses, ce qui unit. Alors que le diabolos, c'est l'exact inverse, le diabolos, celui qui se met en travers du chemin, qui sépare. Le diable est celui qui divise, qui sépare. Donc on sait, quand on est dans un monde diabolique, c'est le monde qui divise, qui sépare et qui inverse les choses. Les méchants sont considérés comme gentils et les innocents sont massacrés. On est dans un monde diabolique à ce moment-là.
C'est pas pour dire, la conteuse Angèle Goduchaud interviewe Jacqueline Kellen.
Tout à l'heure, dans la table ronde, il était question du féminin et de la peur de ce féminin en nous et à l'extérieur de nous. Et vous disiez quelque chose comme, le féminin serait peut-être ce qui nous relie au ciel, disons, pour le dire comme ça. Et ça me faisait penser à cette petite phrase, je crois, qui démarre le livre sur les morts de Delphine Horviller. Elle dit les rabbins et les conteuses ont le pied posé dans la porte pour empêcher qu'elle se referme, la porte entre le visible et l'invisible. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, de l'ordre d'une, d'une peur de l'invisible.
Ah ben c'est ce qu'on appellerait un effroi sacré. Moi, tout ce qui est de l'ordre de la peur, je trouve vraiment, ce n'est pas pour éradiquer le mot, mais à chaque fois, bien sûr, ça peut être nécessaire de travailler sur la peur, la honte, la culpabilité, etc. Mais je pense que c'est beaucoup plus important, surtout à l'époque actuelle, et que ce soit pour les femmes en particulier, c'est de travailler sur des notions, des ressentis. Alors c'est un peu bête de dire positif, mais favorable et beau. La grandeur, la dignité, la beauté, la noblesse, la liberté, voilà, sur ces thèmes-là. Ça me paraît très important. Alors au lieu de dire, oui, pourquoi les hommes ont peur, etc., ou de quoi ai-je peur, non, qu'est-ce qui me fait bouger, vivre, me lever, créer, aimer, rencontrer, etc. Ça me paraît important. Mais il est évident, et là, tous les grandes traditions, les grandes religions, les premières religions de la planète le montrent, les femmes sont non seulement réceptives à l'invisible, aux forces invisibles, mais je pense qu'elles sont les réceptacles aussi. Et les femmes, prêtresses, prophétesses, etc., il n'y a pas que les hommes qui sont prophètes, etc., elles témoignent. Pour moi, ces grandes femmes-là, et celles que nous sommes aussi aujourd'hui, nous devrions être, ce sont les messagères de l'invisible, ce sont les messagères du royaume invisible. Je ressens cela très fortement. Alors, est-ce que c'est ainsi? Ce n'est pas une supériorité, mais j'allais dire, c'est une spécialité. Je crois que la femme est la spécialiste. Enfin, si elle veut, la spécialiste de l'invisible. Donc c'est tout sauf le cérébral. Attendez, on va sortir les microscopes électroniques et on va faire des expériences. C'est l'exact opposé, et c'est pas contre, mais c'est l'exact opposé du scientisme actuel. J'y crois parce que je l'ai démontré analytiquement. La science l'a dit. Ah ben si la science l'a dit, c'est vrai. C'est épouvantable.
En vous écoutant, je pensais que dans les contes, les figures des contes qui sont très entières, hein, un roi, une reine,
bien
un cheval, une princesse,
bien sûr,
n'importe,
bien sûr.
Et qui sont tous sauf psychologiques, disons, dans leur... Hein,
et oui.
Elles sont à la fois très, très reconnaissables. Un roi, c'est pas la même chose qu'une reine. Une fille roi chez Afanassiev, par exemple, c'est pas une princesse, c'est autre chose, voilà. Et en même temps, elles ont quelque chose de particulier qui fait qu'on peut complètement en faire l'expérience. Je peux faire l'expérience d'être le père de Podan.
Tout à fait.
Et on n'est pas dans une chose si noir-blanc que dans une série télévisée où, évidemment, le père de Podan, c'est un sale type.
Bien sûr, et l'inceste, etc. Ouais. C'est très juste ce que vous dites. Déjà, cet aspect... d'être posé, d'être affirmé, d'être celui-ci et pas un autre. Actuellement, en effet, tout ce monde flou, flou que l'on croit nuancé, en fait, c'est de la confusion. Donc, on n'est ni ceci, ni cela, un peu tout à la fois. Et là, c'est évident que sur cette tabula rasa, sur cette matière informe, on peut imposer tout ce qu'on veut. Si on est affirmé, de même quand on parle des dialogues, mais c'est vous qui le précisez par rapport au conte, quand on parle du dialogue, ou du dialogue par exemple entre les religions, je ne sais pas si ça continue, on dialogue si chacun connaît sa tradition, est affirmé dans sa tradition, non pas va bousiller l'autre et va vouloir le convaincre, mais s'il sait de quoi il parle. Le dialogue, c'est entre deux personnes qui savent de quoi elles parlent et non pas qui sont
souveraines.
Voilà, c'est ça, exactement, c'est la souveraineté. Et le fait d'être ni ceci ni cela, etc., on ne peut pas dialoguer. C'est vraiment c'est du mou et du flou et de l'inintéressant. Il y a cela. Par rapport à ce que vous dites aussi, qui est très juste, ce qui est magnifique dans les mythes et dans les contes, en effet, que je sois homme ou femme, je peux tout à fait comprendre combien la jalousie de des frères du petit canard, ou la jalousie de etc., telle princesse, ou même de la marâtre, etc., ou la méchanceté. Oui, il y a toutes ces dimensions en nous, mais, et vous avez raison, moi je ne suis pas du tout dans la psychologie, quoi que ce soit, et pas plus les mythes, ils se moquaient parfaitement de la psychologie, non seulement parce qu'elle n'existait pas, mais ce n'était pas ça du tout. c'est une dimension intemporelle en chacun de nous. Il y a cette nature éternelle, en effet, qu'on soit du 8e siècle avant l'ère chrétienne, comme du temps d'Homère, ou qu'on soit au 12e siècle ou maintenant, eh bien, il y a toujours, c'est la nature humaine qui est contestée aussi, il y a toujours hommes ou femmes, ou enfants, ou adultes, ou vieillards, il y a toujours, eh bien, des jaloux, des traîtres, des gens loyaux, des gens généreux, des personnes courageuses, etc. Et cette nature humaine, on peut la retrouver, c'est pas de la psychologie, elle est en nous. Et puis il y a aussi ces notions de vertu qui est tellement importante à pratiquer. Moi j'aime les contes aussi parce que, oui, alors déjà parce qu'ils rappellent toujours que on n'est pas prisonnier de ce monde. Enfin, moi, c'est la lecture que j'en fais. Moi, c'est une lecture spirituelle ou initiatique. On n'est pas, pour moi, c'est l'âme. C'est l'âme qui est dans ce monde de tribulation, d'épreuves. Elle doit traverser ses épreuves. Surtout pas s'adapter à ce monde, qui est le monde de la confusion et du mensonge et du clair-obscur et de la finitude. Bon, pour ça, c'est bien beau dire la paix dans le monde, etc. Non.
C'est ça que vous dites. Dans les contes et dans les mythes, on n'est pas en train de parler de... des tribulations d'une personne,
mais
de l'âme.
Mais totalement, de l'âme au sens platonicien. Hein. L'âme, cette dimension infinie qui se souvient de son royaume, d'où elle vient, et qui n'a qu'une hâte, alors que ce soit en effet la petite sirène et toutes les autres, ou le petit canard, le dit vilain petit canard, il n'est pas des nôtres, il ressemble pas aux autres, et qui découvre en effet sa noble figure, il n'est pas aimé parce qu'il reflète en lui cette dimension céleste, très belle, cette lumière de l'âme. Et donc cette âme qui est dans, qui a en effet plusieurs robes, hein, plusieurs vêtements, et qui doit affronter les épreuves, les tribulations, sans jamais oublier sa nature céleste. Et après, en effet, retrouver... C'est pour ça, alors peut-être qu'il y a des contes plus récents où on le termine en disant « Ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants ».
Il n'y a pas tant que ça, en réalité.
Ah ben, moi, je vous demande, parce que je vais vous dire, les contes que je connais...
Pas, en fait.
Ah ben voilà. Donc ça...
C'est très curieux, parce que c'est vraiment... presque systématiquement, la chose qui nous est opposée comme conteuse, comme « Et alors, mais qu'est-ce que c'est que ce truc normatif de « Et ils vécurent heureux, voilà. Ils ont beaucoup de fois », mais en réalité...
Mais non, c'est pour ça, moi j'ai bien insisté, puisque là, ce ne sont pas des contes très difficiles à trouver, ça existe et traduit dans toutes les langues, dont en français, donc vous lisez, on trouve ça en livre de poche, enfin, etc., vous lisez les contes d'Andersen, les contes de Grimm, les contes de Perrault, enfin moi c'est sur lesquels j'ai travaillé, les plus connus, oui, bien sûr, et bien à la fin, c'est jamais, jamais une seule fois, ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants.
Alors,
ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu
d'enfants. Parce qu'il a rajouté une morale.
Non, la morale, mais il n'y a jamais,
c'est
non,
pas ça,
non,
c'est
non,
pas, celle-là,
pas
mais,
du
mais
tout.
Bon.
Pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce que justement, ça ne se termine pas. Si on dit « ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants », on retombe dans le temps historique.
Oui, oui, oui. Non, non,
donc, fini la mort.
Si
alors que là,
c'est... rouge, Perrault rajoute...
oui, la morale. Oui, oui,
donc,
mais
ça réduit un peu
oui,
le contexte.
Oui, non,
chose,
c'est souvent à double entente. C'est souvent où la morale, c'est pour faire. Non, non, il était très au courant. Perrault, attendez, il était aussi alchimiste, etc. Ils étaient tout à fait au courant de notre dimension. Il me dit, bon, pour la morale, on va faire une petite morale. Soyez gentils, attention les filles, il faut attendre longtemps. La Belle au bois dormant, il faut attendre longtemps.
Quand même.
Oui, oui, bien sûr. L'idée, en effet, c'est qu'à la fin, ça se termine dans le ciel, c'est les âmes, s'il y a un mariage qui se retrouve, qui s'unissent, mais ça se termine dans l'infini, donc ça ne se termine pas, le conte n'a pas de fin. Donc le rabaisser à « ils furent heureux beaucoup d'enfants », c'est bourgeois, banal, et ça ne veut pas dire que le fait de se marier et d'avoir des enfants est banal. Mais là, c'est vraiment, ce n'est pas, c'est le bonheur bourgeois comme on a pu l'inventer peut-être à un moment, mais ce n'est pas ça la... Non, c'est quitter la caverne du monde, c'est la grande question platonicienne, quitter la caverne du monde.
Toi l'épouse modèle, le grillon du foyer, toi qui n'as point d'accroc dans ta robe de mariée, toi l'intraitable Pénélope, en suivant ton petit bonhomme de bonheur, ne verses-tu jamais en tout bien, tout honneur, de jolies pensées interlopes, de jolies pensées interlopes. Derrière tes rideaux, dans ton juste milieu, en attendant le retour d'un Ulysse de banlieue penché sur tes travaux de toile. L'espoir de vague à l'âme et de mélancolie, n'as-tu jamais en rêve au ciel d'un autre lit compter de nouvelles étoiles, compter de nouvelles étoiles. N'as-tu jamais encore appelé de tes voeux l'amourette qui passe, qui vous prend aux cheveux, qui vous compte la bagatelle, qui met la marguerite au jardin potager, la pomme défendue aux branches du verger, et le désordre à vos dentelles, et le désordre à vos dentelles. N'as-tu jamais souhaité le revoir en chemin, cet ange, ce démon, qui son arc à la main décoche des flèches malignes, qui rend leur chair de femme au plus froid de statue, les bouscule de leur socle, bascule leur vertu, arrache leur feuille de vigne, arrache leur feuille de vigne. Les craintes que le ciel ne t'en tienne rigueur, il n'y a vraiment pas là de quoi fouetter un cœur qui bat la campagne et galope. C'est la faute commune et le péché véniel, c'est la face cachée de la lune de miel, et la rançon de Pénélope, et la rançon de Pénélope. Toi l'épouse modèle, le grillon du foyer, toi qui n'as point d'accroc dans ta robe de mariée, n'as-tu jamais rêvé en tout bien, tout honneur? Non.
L'art de la couture, traditionnellement, est d'un grand enseignement. C'est pourquoi il est très présent dans les contes de fées. Que l'on assemble deux morceaux de tissu, que l'on fasse un ourlet ou que l'on brode, le fil que tient l'aiguille tantôt apparaît, tantôt disparaît, sans pour autant interrompre l'ouvrage. Au contraire, l'alternance entre ce qui est dessus, bien visible, et ce qui est en dessous, momentanément caché, s'avère indispensable pour la réalisation complète du vêtement. Même si les yeux ne le perçoivent pas, le fil continue d'avancer. Il en va ainsi pour les contes de fées.
Est-ce que vous vous souvenez de ce moment, et peut-être ça n'existe pas d'ailleurs, mais est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez eu envie de dire quelque chose de ce qu'il y a en dessous ou au-dessus de l'histoire?
Vous voulez dire par rapport au conte ou d'une façon générale dans ma démarche?
Parce que quand même, c'est votre démarche.
Oui, décryptée.
Qu'est-ce que c'est qui vous a donné envie de ça?
Qu'est-ce qui m'a donné? Je pense qu'il y a des dons ou des appels comme ça. Déjà, je vous dis, moi, l'histoire terrestre ne m'intéresse pas beaucoup. Très tôt, je me sentais plutôt, en effet, un oiseau tombé du ciel. Enfin, je ne me sentais pas spécialement patrie terrestre, etc. Il y a ça. Et ce n'est pas une question familiale, parce que ça se passait bien. Donc, ça n'a rien à voir avec, papa Freud, il peut sortir. Mais je me sentais, en effet, plus du ciel que de la terre, en effet. Il y a cela. Et puis, ne pas se contenter des apparences. Il y a ça, chercher toujours ce qu'il y a derrière. J'ai pas creusé, fait archéologie ou j'ai pas fait de spéléologie, mais toujours intéressant d'aller voir les coulisses. Et j'ai toujours apprécié que, j'ai retenu de l'anglais, je le comprends, mais je le pratique plus guère, que wings en anglais, ça veut dire à la fois les coulisses et les ailes. Ça m'a toujours plu, ça. Bon, pas c'est les ailes de l'ange, mais enfin, je trouvais ça joli. Ce qui me paraît intéressant, comme j'ai lu quand même très tôt donc des mythes, et puis après avec mes études, philosophie, c'est se dire il y a toujours, puis dans les grands textes, moi j'ai beaucoup lu les écritures et les textes sacrés de toutes les traditions, et savoir que soit on se contente de l'histoire extérieure, soit on creuse et il y a au moins 4 niveaux de lecture, sinon plus, et on va de plus en plus profond. Il y a l'esprit et la lettre, et ça m'a toujours paru magnifique de déchiffrer ce qu'on peut dire à travers une histoire. Bon, quand Jésus raconte des paraboles, il le dit lui, mais on peut rester au ras de l'histoire, enfin qui est déjà jolie, et puis on peut se dire, mais ça veut dire plus long que ça. Et ça, et ça veut dire que vous-même, vous êtes celui qui va chercher. La personne peut vous aider. Parce qu'il y a plusieurs interprétations. Moi, je ne dis pas qu'il y a une interprétation unique. Mmh. C'est pour ça qu'en ce sens, par exemple, la tradition juive, je trouve extraordinaire.
C'est ça, oui.
Parce c'est que c'est... Voilà, et l'interprétation, mais c'est magnifique. Et ça ouvre la liberté. Mmh. Moi, j'ai beaucoup lu Borges, par exemple, qui est aussi passionné par cette tradition-là. Et voilà, cette interprétation infinie, ça se déroule, ça s'ouvre, c'est magnifique. Mmh. Donc, je ne sais pas quand ça remonte, enfin, ce goût, mais je pense que c'est inné de se dire, on se contente. Si, je pense qu'il y a aussi certainement un côté contestataire. De se dire, je ne m'en laisse pas compter, si les adultes, il paraît, enfin je suis toujours obstinée, mais que je ne pliais pas. Ouais. Ce n'est pas parce que c'est un adulte qui me dit ça, que je vais être docile et soumise. Je ne suis pas du genre à dire, ah ben oui, il a dit ça, il a raison, non, je vais creuser, etc. En ce sens, l'esprit des Lumières, pour le coup, est intéressant parce que exercer son esprit critique, aller voir par soi-même, vérifier par soi-même.
On parle de responsabilité, là aussi.
Voilà. Et non pas se contenter de ce qu'on dit, etc. Donc, les contes, les mythes et contes, c'est en effet la richesse d'une culture.
Graziosica sos,
C'est pas pour dire, la conteuse Angel Goduchaud interviewe Jacqueline Kellen.
Alors il y a aussi le fait que, en tout cas, évidemment, ils ont été notés dans des livres, on peut les retrouver dans,
après,
en
oui.
écrit, mais il y a toute cette tradition orale. Et dans ma question, qui n'est pas résolue toujours, mais qu'est-ce qui fait que des gens se rassemblent, ils peuvent même venir de loin, pour écouter une histoire, on est vraiment dans un dispositif très simple. Mmh. La plupart du temps, les conteurs n'ont pas de décor ou de technique très important. Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore des gens qui racontent? Et qu'est-ce qui fait qu'il y a encore des gens qui écoutent des histoires? D'où tient ce miracle?
On écoute ou on raconte pour ne pas mourir, pour oublier qu'on est mortel, pour sentir ou... entendre, se faire rappeler que la vie est infiniment plus vaste que l'existence, le petit bout d'existence terrestre qui nous est alloué, pour vivre aussi toutes sortes de vies, pour rire, pour pleurer, pour frissonner, pour vibrer de mille façons. Oui, c'est pour avoir une vie plus ample. Plus ample, ah oui, plus ample, plus profonde, mais profondément, c'est pour narguer ou pour défier la mort et pour savoir que cette parole-là qui vient du cœur est plus forte en effet que la mort.
Ça ne veut pas dire l'oublier, hein, parce qu'il y a aussi toute cette cululture du divertissement. Si je me mets devant un écran, j'oublie, en tout cas pendant le temps que je suis...
Non, mais moi, je n'ai pas dit oublier.
Voilà, hein.
Je n'ai pas dit oublier pour ne pas mourir. Ça ne veut pas dire pour oublier qu'on est mortel. C'est pour ne pas mourir, c'est pour trouver ce qui résiste à la mort ou ce qui surmonte la mort. Hein. Le Cantique des Cantiques dit « c'est l'amour est de taille à s'affronter à la mort ». Et je pense que c'est de cet ordre-là. Mais ce n'est pas pour oublier. Non, ce n'est pas du tout du divertissement et de la léthargie. C'est justement pour trouver en soi cette étincelle, cette merveille, cet enchantement qui fait que on est beaucoup plus que cette individualité historique, organique, biologique, psychologique à quoi on veut nous réduire.
Tout à l'heure, dans la table ronde, il était question à un moment de vibration, d'énergie,
oui, Michel
de vitalité aussi, quelque chose comme ça. Est-ce que vous diriez que ça a aussi à voir avec quelque chose qui donne du courage ou qui donne de l'énergie, de la vitalité?
Bien sûr.
D'être ensemble à écouter quelque chose et...
Oui, mais même seul. Alors moi, je peux même seul. Ça dépend sur quoi on travaille pour écrire. Hein, je peux. Enfin, moi, quand je me mets à écrire, donc j'entre en écriture comme je dis. Alors là, c'est tous les jours qu'il pleuve, qu'il neige, que je sois pas bien ou bien. Hop, je me mets devant ma table. Ah, terrible. C'est ascétique. C'est une discipline. Ah, mais c'est terrible. Non, mais c'est terrible. Tous les jours. Bon, et à la fin, j'écris une demi-page ou j'écris deux pages. Bon, bref. Voilà. Et tout ça pour vous dire, donc le matin, plutôt en fin de matinée, moi j'écris l'après-midi, heureusement, pas la nuit, je peux dormir, et je suis vraiment pas en forme, j'ai mal dormi, etc., je me mets dans la table. Et si je travaille sur un sujet qui est en effet pas sinistre, mais plutôt revigorant, en effet un conte, un mythe, etc., mais à la fin de la journée, je suis beaucoup plus en forme, j'ai une énergie qui vient de ce texte et ce travail qui m'offre, je suis bien mieux qu'au début. Donc ça veut dire que ça nourrit ces textes, même si vous le lisez ou vous méditez sur, ça vous apporte une énergie beaucoup plus grande que la simple énergie corporelle. Mmh. C'est évident que c'est une énergie spirituelle, ça c'est évident.
C'est pas seulement donc des matériaux, c'est pas seulement quelque chose qui enseigne, mais aussi qui nourrit.
Ah mais totalement. Mmh. Quand on parle des nourritures spirituelles, c'est ça. Mmh. Mais qui s'en soucie? Qui s'en soucie?
C'est l'hiver. La reine coud devant la fenêtre au cadre d'ébène et regarde rêveuse la neige qui tombe et le paysage tout blanc. C'est alors qu'elle se pique le doigt avec l'aiguille et que trois gouttelettes de sang se déposent sur la neige fraîche. Devant cette vision, lui vient le désir d'avoir un enfant merveilleux, aussi blanc que la neige, aussi vermeil que le sang et aussi noir de cheveux que l'ébène de cette fenêtre. Son vœu est exaucé. La petite fille qui naît est ravissante, avec sa peau blanche, ses joues et sa bouche rouge, sa chevelure noire. On l'appelle aussitôt Blanche-Neige. Mais la reine meurt en la mettant au monde. Un an après, le roi épouse une femme fière de son apparence et très soucieuse de la conserver. Elle interroge souvent son miroir magique pour s'assurer qu'elle est la plus belle femme du royaume. Et le miroir lui répond invariablement qu'elle est sans conteste la plus belle du pays. Pendant ce temps, la fillette grandit et sa beauté est de plus en plus éclatante, si bien qu'un jour, le miroir magique répond à la reine ombrageuse que, certes, elle est très belle, mais que Blanche-Neige est mille fois plus belle. C'est pas pour dire, nous sommes au festival du légendaire et la conteuse Anne-Gaëlle Goduchaud interviewe l'auteur Jacqueline Kellen.
Est-ce que, justement, de la part de quelqu'un qui n'est pas conteuse, est-ce que pour quelqu'un qui commencerait à raconter des histoires, si vous deviez lui donner un conseil ou bien, vous voyez, cette chose qu'on dit à quelqu'un qui va embarquer sur un navire, vous lui diriez quoi ?
Pour être conteuse ?
Oui, qu'est-ce que vous lui diriez ? Qu'est-ce qui est important ?
Bah, comme dans n'importe quelle, j'allais dire, profession ou démarche, c'est aimer ce qu'on fait, être passionné. Hein, pour être professeur, etc., c'est donner le goût. C'est-à-dire si, et donc, s'il y a un conte qu'on aime particulièrement, le partager. Moi, je trouve que c'est ce goût de faire connaître et de partager. C'est ça, la passion. Il n'y a pas d'autre terme. Il n'y a que la passion qui compte. On est triste, s'il n'y a pas avoir une grande passion dans sa vie, c'est très important. Il n'y a pas à délimiter, à préciser, à obliger à telle et telle passion. Mais si on n'est pas passionné, donc avoir un conte qui nous passionne, et à ce moment-là, on le fait partager. Mais moi, je n'ai aucun autre conseil, parce que justement, quand je dis « je ne suis pas conteuse », il y a quand même toute une technique.
Oui, oui.
Hein, toute une gestuelle, il y a une présence, etc. Comme être comédienne, moi je serais incapable d'être comédienne. Donc ça c'est... Mais je peux parler en effet de choses que j'aime.
Oui,
donc oui, c'est ça, c'est partager ce qu'on aime. Moi le peu, enfin que j'ai été professeur, puis maintenant quand je donne des conférences, je ne dis pas où est-ce que je vais bien parler. Alors je prépare en effet, c'est très rigoureux mon plan, mais je ne dis pas ce que j'écris. Je prends juste des notes, mais c'est le partage, le goût de faire passer ce que j'ai découvert ou ce que un poème, etc. C'est ça, la passion, le goût de faire passer.
Je chante pour moi-même, et je pense, il n'est pas défendu de
je suis comme un homme ivre, si je cède, si je livre ta promesse, tu la tiendras. Ah, si je t'aime, Carmen, Carmen, tu m'aimes.
C'est pas pour dire entretien avec Jacqueline Kellen.
Est-ce qu'il y a des histoires qui vous ont, ou des mythes qui vous ont passionné plus que d'autres? Qui vous ont donné du fil à retordre beaucoup plus
alors,
que d'autres?
Alors, je vais commencer par un conte, non pas qui me donne du fil à retordre, mais pourquoi dans le livre que j'ai, donc ça remonte maintenant à plusieurs années, le livre que j'ai écrit donc sur la dimension spirituelle des mythes, des contes, pardon, donc Une robe de la couleur du temps, j'en ai choisi 17 très connus, la plupart très connus, bien sûr que j'ai quand même résumé au début, donc que ce soit en effet La petite sirène, Le petit pousset, hein, La belle au bois dormant, Cendrillon, etc. Donc 17 quand même bien connus. Et il y en a un qui offre de la résistance pour moi, et je suis d'autant plus malheureuse que j'ai une passion totale pour les chats, enfin pour tous les animaux, mais pour les chats en particulier, et c'est le chat beauté. Le chat beauté. Et donc je n'ai pas le chat beauté dans mon livre, parce que je me suis cassé la tête ou je n'ai pas réussi. Un ami qui est plus de ce monde, mais qui était alchimiste, m'a dit que c'est totalement alchimique comme interprétation. Voilà, et je ne voulais pas me contenter simplement d'un chat malin, astucieux, etc. Il y a une dimension, et là, qui m'échappe. Voilà, et donc, voilà pour le chat beauté. Mais vous me posiez une autre question. Oui, ce qui m'émerveille, il y a plein de contes. Je vous ai dit mon premier... Donc toute jeune, avec le conte de Grimm, qui est quand même pas rien, le fidèle Jean. Puis c'est une histoire aussi de fidélité, de loyauté, ce qui m'est très cher, vertu majeure, franchise, loyauté, puis sacrifice, donc un homme noble, un homme de cœur. Mais il y a ce mythe que j'espère avoir contribué à répandre un peu. J'ai écrit un livre là-dessus, enfin ces fameuses légendes de Mélusine, qui est extraordinaire. Toute femme, normalement, héberge en elle une Mélusine. C'est une fée qui accomplit des merveilles, qui est en même temps une épouse, une mère de famille, une bâtisseuse, une défricheuse, et qui a ce pacte, en effet, qu'elle propose au chevalier tout à fait démuni qu'elle rencontre, en lui disant, mais qu'elle va lui proposer une vie, lui faire une vie merveilleuse, qu'ils seront heureux, qu'il sera riche, opulent, etc., qu'il aura beaucoup d'enfants, mais... une condition qui n'est pas dramatique, pour ça que lui dit oui tout de suite, c'est le samedi, en effet, je serai dans mes appartements. Donc ce respect, en effet, de la singularité, du silence, de la solitude de l'épouse, voilà, et que ça a duré 20 ans quand même avec ce pacte-là. Et je trouve que ce sens du secret, cette féminité non pas interdite, mais qui est, qui est de l'ordre du secret.
Oui, du non-fusionné.
Voilà, aussi. Et ça, je trouve extraordinaire, parce que c'est une des rares, peut-être pas dans les contes, mais dans les mythes ou les légendes, c'est rare quand il y a en effet, c'est bâti sur un couple, une relation conjugale. La plupart du temps, c'est l'histoire d'un homme, ou d'un chevalier, d'une femme, etc. Et là, que ce soit une réflexion sur le couple, j'ai trouvé ça très intéressant.
L'histoire du fidèle Jean, c'est un genre de couple aussi,
oui,
ces deux-là.
C'est vrai, c'est vrai. Mais là, c'est vraiment fondé là une réflexion sur la conjugalité et est-ce qu'il faut tout se dire, tout partager, jamais l'un sans l'autre, enfin l'enfer, l'enfer total ou l'égoïsme à deux, est-ce que c'est ça ou... Mais c'est tragique en même temps, parce que c'est quelque chose qu'on peut ressentir ou qu'on a pu vivre, bien sûr, c'est si fort que j'aime l'autre, je ne serai jamais l'autre. Non seulement j'ai aucun droit sur lui, aucune possession, on peut dire mon mari, ma femme, mon chien, etc. Bon, mais je n'ai aucun droit sur lui, aucune possession sur lui, hein, même si je ne le lâche pas d'une semelle. Donc il y a ça. Et si fort que je l'aime, je ne mourrai pas à sa place. Et je ne pourrai pas, je serai pas malade à sa place, je ne pourrai pas prendre sa souffrance sur moi.
Puis je ne peux pas le connaître.
Non, jamais. Jamais.
Déjà, même l'autre en moi.
Mais tout à fait, voilà. Et donc, ce jardin secret qui se révèle un abîme de mystère, qui est à la fois une pure merveille, parce que je ne désirerais pas, je n'irai pas vers l'autre, il n'y ait pas cet appel-là, ce mystère. Et en même temps, cette cloison.
Vous dites vous-même que vous êtes mystique.
Alors, personne ne dirait mystique, pas plus que poète, etc. Mais moi, je suis, toute ma vie est une soif d'absolu. Mmh. Ah oui, soif d'absolu. Mmh. Et j'ai beaucoup, et je continue de beaucoup lire les mystiques de toutes les traditions, bien sûr. Parce que ce qui est passionnant chez les mystiques, bien sûr, c'est la voie de l'amour, hein, la voie de la passion, la voie de l'union amoureuse. Mais ce qui est magnifique, c'est que là, au niveau des mystiques, donc c'est le sommet de la pyramide, si on peut dire, il n'y a pas de guerre de religion, justement.
Mais la question n'est jamais résolue. Mais
non.
Et jamais...
Non, non, mais en même temps, non, non, mais il n'y a pas de... C'est plus, on n'est plus dans le dogme, dans les doctrines, les rites, etc. On est dans l'amour, du divin, du bien-aimé, donc qu'on soit soufi, qu'on soit hasside, donc juif du XVIIIe siècle, qu'on soit un chrétien ou une chrétienne, c'est le même langage, si on peut dire. Donc c'est ça qui est magnifique. Oui, les mystiques me paraissent passionnants et justes dans leur démarche. Ça, le salut peut venir de ce côté-là. Oui. Puis ils indiquent la porte du ciel. Donc, ils parlent de ce qu'ils connaissent.
Merci, Jacqueline.
Mais merci beaucoup à vous.
C'est vraiment, je vous aurais écouté pendant 3 heures. Là, je vais vous libérer quand même.
Les contes sont des messagers et des médiateurs. Inlassablement, ils restaurent les liens qui relient la terre au ciel, l'humanité au Dieu, l'âme à sa patrie d'origine. Patiemment, il chuchote à l'oreille des petits et des grands une très ancienne sagesse, non pas chenue, mais audacieuse, fervente, une sagesse vive qui, à travers siècles et contrées, philosophie, mythes et religions, endosse des vêtements divers, se glisse sous des habits sévères ou se pare de robes chatoyantes. Les contes ne sauraient se contenter d'être porteurs de morale, encore moins d'être thérapeutiques. Ils ont avant tout une portée initiatique. Ils appellent à une autre conscience, à une seconde naissance, à une vie supérieure. Ils ne cessent de rappeler la véritable mesure de l'être humain, qui est sa dimension spirituelle. C'est de l'âme qu'ils parlent, et c'est à l'âme qu'ils parlent. Voilà, c'est avec cet extrait du livre « Une robe couleur du temps » de Jacqueline Kellen que cette émission se termine. Vous pouvez réécouter l'émission ainsi que toutes ses petites et grandes sœurs sur le site c'estpaspourdire.fr. Vous pouvez bien sûr nous envoyer des messages également, des commentaires et des suggestions sur la page Facebook de l'émission qui est c'estpaspourdire.on passe à la radio. En attendant la prochaine enquête de contes, eh bien je vous dis salut.
C'est pas pour dire était comme chaque mois produite et réalisée par la compagnie La Lumos sur une idée de Anne-Gaëlle Gauduchot et présentée par Charles Cécile. We'll be right back.
have a dream.